dont Bouchard en parle. Voici Pierre-Yves McSween.
Salut Pierre-Yves, comment vas-tu?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien. Le blocus des voies ferrées t'interpelle?
Ben, il m'interpelle parce qu'on me donne même des commandes, faut en parler, parce que c'est quand même le sujet de l'heure. On réalise
oui.
peut-être pas.
Oui.
Tu sais, nous, on pense à notre voiture, puis on pense à notre travail, puis on dit, ben, ils peuvent bien barricader l'autoroute, puis n'importe quoi, puis les chemins de fer, on s'en fout. Mais toute notre économie est basée sur ça. Tu sais, le Canada, c'est amare, usque, admare. Hein? Tu sais, on s'entend, c'est d'un océan à l'autre. Mon latin est ordinaire. Mais en somme, tu sais, les conteneurs qui sont pas arrivés par bateau ou qui arrivent par bateau, faut qu'ils soient transportés autrement. Puis quand c'est pas par bateau, par camion, ben, ce sont des trains. Et les gens imaginent tellement pas tout ce qui est business to business. C'est toutes les entreprises qui prennent des matières premières ou des composantes, qui les transforment en autre chose, puis qui ont pas accès jusqu'à temps que ce soit un produit fini. Mais tu sais, on donne un exemple. Ferroviaire au Canada, en 2017, ça représentait 84 millions de voyageurs. Et ça, c'est juste les voyageurs. Mais quand tu arrives dans les matériaux et les produits, tu te rends compte que le transport ferroviaire, c'est du charbon. C'est des conteneurs, c'est du grain. C'est les produits de bois, les produits chimiques, les produits pétroliers. Oui, et la potasse, donc l'énergie, des matières premières de base, l'alimentation. Ça fait en sorte que... Quand tu bloques une compagnie ferroviaire ben ou un train, tu bloques l'économie canadienne et tu bloques surtout tout ce qu'il y a après. Donc, imagines-tu une usine qui a pas ses matières premières pour 2-3 semaines?
Impossible.
Donc, coupe-la, t'as plus ton avantage, là t'es rendu un goulot d'étranglement pour le reste, tout le monde perd, puis là, toute la chaîne d'après de consommation ou de production perd. Donc, au bout du compte, il y a des emplois indirects complètement insoupçonnés qui pourraient à être perdu à temporaire jusqu'à temps que le conflit soit réglé. Notre question, c'est est-ce qu'on va revivre une crise d'Oka?
Ouais.
Je sais pas si t'en souviens-tu de la crise d'Oka?
Oui, absolument, en 90.
Moi, je viens de Valleyfield. Tu comprends que c'était pas mal proche.
Oui.
Donc, moi, je vivais les conséquences. Exemple, j'avais un tournoi de soccer, puis on contournait, tu sais, on allait à Châteauguay, tout ça, mais il y avait l'impact de ça, fallait prendre d'autres routes, mais surtout, le gouvernement avait tardé. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut, dans ce cas-ci, se permettre de perdre une partie du transport ferroviaire ou même se faire dire on fera pas de transport au cas qu'il arrive des accidents parce que il y a rien de pire qu'un transport ferroviaire qui se fait quand même à d'autres endroits et qu'il y aurait un blocus à quelque part et qu'il y aurait des morts. Et donc, au niveau économique, c'est quand même épouvantable et on se rend pas compte à quel point, là, ça fait 2 semaines, mais quand ça va faire plusieurs jours, qu'est-ce qui va arriver?
T'as dit au cas qu'il arrive des accidents, c'est-tu un jeu de mots, ça?
Oh, je l'ai pas vu, ça.
Hey, ouais, Pierre,
je suis rendu vraiment un François Pérusse sans le savoir.
mais Pierre-Yves, sérieusement, les gens qui bloquent ça, puis là, je veux pas qu'on relance le débat ensemble, c'est pas l'objectif, mais je trouve ça intéressant comme sujet quand même. Les gens qui font ça vont toujours dire qu'ils veulent pas bloquer l'économie, mais le résultat, c'est qu'ils font ça. Ils bloquent l'économie. Mais la prémisse de base n'est pas là.
Non, mais faut comprendre l'affaire. C'est qu'effectivement, au Québec, au Canada, tu te fais entendre quand tu bloques l'économie. Tu sais, les producteurs de porc, quand t'en souviens-tu l'époque, il y avait déversé des porcs, pas déversé, mais il y avait mis des animaux sur la route. Ben, on les a entendus parce que là, effectivement, il y a du monde qui, le gars qui va sur le pont puis qui va manifester en montant dans le pont, il arrête le trafic, ben, veut pas, il se fait entendre. Donc, toute personne qui crée un dérangement se fait entendre. Est-ce qu'elle reçoit de l'empathie pour sa cause? Pas nécessairement. Mais quand t'es capable de bloquer un système ferroviaire, là, c'est pas juste que tu n'auras pas d'empathie, mais quand même, tu auras quand même l'attention du Canada. Parce que tout le monde est au courant de la situation. Il y a plein de monde qui revendiquent, qui font des grèves, ça donne rien. Mais ce qu'on peut voir présentement, c'est qu'ils ont un point. On va les entendre, puis le premier ministre a cancellé ses voyages.
Oui.
Je sais pas si Justin Trudeau va être aussi mou que d'habitude dans ses négociations, ou il va être aussi, je prends pas de décision, je laisse ça aller, parce qu'on l'a vu souvent. La question, c'est qu'est-ce qui va arriver après? Bon, là, je sais pas, mais sincèrement... ça me rappelle, c'est une plus grosse échelle. Là. C'est à des mille à la ronde la crise d'Oka, mais on a une odeur de crise d'Oka.
Oui, je comprends. C'est quoi le faux débat concernant la valeur du PDG de la Caisse de dépôt?
Là, tu as un nouveau PDG de la Caisse.
Oui, okay? Pour son salaire.
Il l'augmente de 10% par rapport à CBA sur sa rémunération de base.
C'est M. Benoît?
Oui, M. Edmond.
Monsieur Edmond, Charles Edmond, voilà, pas Monsieur Benoît.
Pas Jean Benoît là, qui faisait le... C'est une autre affaire.
Mais... Charles Edmond, parfait.
Charles Edmond, lui, va toucher 550 000 de base.
Oui.
Mais la rémunération incitative pourrait, si il accote Michael Sabia, par exemple, générer 3 millions de rémunération totale. Donc, on s'attend-tu que qu'on lui donne 50 000 de plus de rémunération de base, puis qu'on joue après sur la rémunération incitative. L'impact net, c'est quoi? L'autre point, c'est que pour débaucher des gens dans ce milieu-là, tu peux pas payer le PDG de la caisse 250 000, puis qu'après ça, tu t'en vas au VP de la Banque Laurentienne, t'en fais 700. Tu sais, on s'entend, là.
Non.
C'est pas une microbanque. Après ça, tu gères quand même des milliards, 327 milliards d'actifs. On va voir les résultats demain, mais dans le passé, on avait ça. Tu gères tous les déposants du Québec, tu gères des placements privés, des revenus fixes, de l'immobilier, des infrastructures, des marchés boursiers, puis de l'investissement au Québec. Tu fais tout ça, là. T'es responsable de tout ça. Et il faut pas que tu sois payé comme un joueur de quatrième trio si t'es un premier centre. Puis je voudrais te faire un parallèle.
Ben d'accord.
Si on va voir la rémunération, par exemple, de Guy Cormier à la caisse.
Oui.
Ben Guy Cormier, l'année passée, oui, il y a eu 1 million de rémunération, 1 million de rémunération variable, puis il y a eu 1 million de valeur de régime de retraite totale. Ben, tu comprends-tu que si tu regardes ça, le PDG de la Caisse populaire, Desjardins, fait ce type de rémunération-là. Le PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec doit en faire dans les mêmes eaux. Tu peux pas dire ça va être loin. Puis si tu t'en vas voir Louis Vachon, là on parle
Banque nationale.
Oui, Banque nationale. Là, on parle en 2018, c'est une rémunération totale de 8,9 millions de dollars. Là, tu vas me dire, c'est beaucoup d'argent. Oui. Et moi, j'aimerais parler au gars de sport en toi.
Oui.
Comment on rémunère un joueur de hockey?
Ben,
pourquoi on le rémunère si cher?
Parce qu'il vaut cher.
Vaut cher? Mais pourquoi? Sa carrière, on dit tout le temps qu'elle est
Il fait gagner l'équipe, il peut attirer des gens dans les estrades pour venir le voir.
On vend des tickets, etc.
Ouais.
Mais ce qui est hot dans le milieu bancaire ou dans le milieu des gestionnaires de compagnies cotées en bourse,
ouais,
c'est exactement la même chose. Et là, je sais pas si tu te souviens de ça, tu te souviens sûrement de Scott Stevens.
Ben oui.
Tu te souviens du prof Caron?
Oui.
Scott Stevens a été dans mes premiers contrats que publiquement a fait sauter la banque. C'était sorti dans les... Tu sais, les premiers où on a eu l'information,
oui,
le prof Caron l'avait signé, il avait donné un gros salaire. Je pense que c'était 1,7 million pour 2 ans, ou je sais pas. Tu sais, je me souviens plus du chiffre, mais
okay,
à l'époque, c'était beaucoup. Et ça a fait exactement l'impact des conseils d'administration. C'est-à-dire qu'une fois que les joueurs ont divulgué leur salaire puis leurs ententes, les autres joueurs ont pu se comparer et faire un effet d'entraînement. Mais en business, des sociétés cotées en bourse, on a la même folie. C'est qu'on se dit, ben là, le PDG de l'autre compagnie qui a tant de millions en gestion, tant de milliards d'actifs ou tant d'employés, gagne tant, fait tel rendement. Notre PDG, comment on le compare, faut le payer autant. Puis là, c'est un jeu de conseil d'administration. Donc, les entreprises cotées en bourse ont la même réalité que les directeurs généraux d'équipes de hockey. C'est-à-dire qu'ils doivent comparer le marché. Mais là, il y a quelque chose qui fonctionne pas de m'emmener, par exemple. Le joueur de hockey, tu sais, il a une carrière de 6 ans en moyenne, mettons, quand il est chanceux. PDG, là, t'as été avant vice-président, t'as été... Donc, t'es au niveau business, au niveau cash, là, être PDG, c'est quand même intéressant.
Oui.
Parce que t'as 50, tu sais que M. Vachon, là, 8,9 millions, il pourrait-tu arrêter, mais ça?
Ben oui.
Mais pourquoi il continue? Ça, c'est la question. Pourquoi tu continues de m'emmener? T'as-tu besoin de travailler? Non, clairement pas. Est-ce que t'as besoin de te vendre? Clairement pas. Mais est-ce que t'aimes? Puis il y a une affaire très narcissique derrière tout ça, c'est de dire, je veux être évalué et être payé cher, pas parce que j'en ai besoin, c'est parce que c'est une mesure de la reconnaissance.
Pour le prestige?
Non, mais pour la reconnaissance. Pour la reconnaissance, moi, si je fais un travail, mettons qu'on te paye comme animateur radio, là, puis ouais, qu'on te dit, on va te payer 30 000, mettons. Ouais. Là, tu vas dire, tabarouette, là, t'as une minute, là, je me compare aux autres animateurs des autres stations, tout ça.
Il m'en manque.
30 000, c'est pas beaucoup. Donc, t'es en train de dire, même si t'as pas besoin de l'argent, mettons, tu vas me dire, Pierre-Yves, tu sais, c'est comme si tu me dis que je ne vaux pas grand-chose, donc je le prends en personnel.
Ouais.
C'est exactement la même chose. Le PDG veut être bien rémunéré. Pourquoi? Pas parce qu'il a besoin d'un million de plus ou 500 000 de plus. C'est parce qu'il veut être dit, ben, je suis rémunéré à ma juste valeur par rapport à mes pairs.
OK.
Oui.
Mais en même temps, tu as fait un parallèle avec le hockey tantôt. Je vais prendre la balle au bon, puis je vais te ramener ça au domaine.
La balle ou la rondelle?
la rondelle peut-être, mais ça sera pas au bon dans ce cas-ci.
Oui, exactement.
Pierre-Yves, tantôt, tu as dit Scott Stevens. Tu as donné l'exemple. Bon, c'est beau, on avait su son salaire, puis ça a commencé à la flamber. Dans le domaine bancaire, est-ce que tu es capable, avec ton expertise, d'évaluer à quel moment le grand boss d'une banque est devenu et a commencé à faire des 8-9 millions au lieu de faire des 1,2 puis des 3 millions.
Ouais, mais là, effectivement, si tu retournes dans les années 90-2000, tu sais, c'est comme le reste de la population, les centaines de millions en revenus sont tombés dans les millions. Et dépendant de la banque, moi, ce qui me fait un peu rire, pour vrai, je vais être honnête avec toi, Mettons que tu gères une plus grosse banque que ton voisin.
Oui.
Ton day-to-day, tes risques opérationnels, tes gestions sont... C'est pas le volume d'affaires qui va changer la réalité de la business. T'as peut-être plus de succursales, t'as peut-être plus de transactions, mais tu sais, c'est comme à la caisse. Qu'on gère 300 millions ou 250 milliards, de 300 milliards ou 250 milliards, c'est la même logique.
Oui.
T'sais, tu vas pas changer ton travail.
Mais non.
Donc, ça, c'est un peu illogique. Tu sais, il y a pas nécessairement dans le day-to-day un grand changement. Mais le président est quand même l'ultime responsable. Puis un bon exemple, c'est M. Cormier. T'sais, lui, il est arrivé en poste avec le sourire, dans la joie et l'allégresse. Tout allait bien, vision 360 de la caisse, tout va bien. Et un jour, paf, il y a un employé, un tata, qui prend sa clé USB, qui prend un accès de quelqu'un d'autre, qui s'en va dans l'entrepôt de données, puis qui commence à télécharger, puis il se fait pas pogner, puis là, il fait deux, puis là, finalement, il télécharge les données de tout le monde.
Oui.
Et là, ça pète d'en face avant tes vacances. Et c'est là que tu comprends pourquoi le PDG est payé. Parce que c'est là, dans la situation de crise, que c'est lui l'ultime responsable. Et tu vois, des PDG qui ont perdu leur job à cause d'une crise. Je te donne un exemple. British Petroleum, te souviens-tu?
Ouais.
Dans le golfe du Mexique, il y avait eu du pétrole qui s'était évacué pendant des jours.
Mauvaise gestion, donc?
Exact. Ou mauvaise gestion de crise, donc on prend un coupable.
Ouais.
Valéant, même chose.
Okay.
Surévaluation de des constatations de produits. Même chose avec l'autre qui avait eu aussi, que je me souviens. Ah oui, Volkswagen. Volkswagen, ça prenait un coupable.
Ouais.
Donc, t'es l'ultime coupable. Même si t'es pas au courant de quelque chose, t'es le coupable. C'est comme l'entraîneur-chef. T'as pas gagné? Bye-bye. Bon, écoute, à Montréal, tu vas me dire.
Ouais.
Vous gagnez pas, puis les gens restent en place.
Non, mais ça, c'est exceptionnel.
Mais, on va s'entendre.
Mais juste en terminant, quand Price fait 10,5 millions, c'est la personne qui va au Centre Bell qui paye son billet plus cher que ce que nous, on payait à l'époque des Nordiques.
De ça,
et la bière à 14 piastres et tout pour payer le 10,5
en termes... Les loges corporatives.
C'est ça, c'est très dispendieux, tu as raison. En termes bancaires, est-ce que c'est l'usager de la Banque nationale qui fait en sorte de payer le 8,9 millions à Louis Vachon?
Oui, mais en même temps, le volume de transactions est tellement grand, puis que tes coûts de transactions sont proportionnels à tes voisins, que si, par exemple, tu génères 1 milliard de bénéfices nets, la rémunération du PDG est pas assez matérielle pour changer les frais de transaction de façon matérielle pour le client.
OK.
Alors, la différence est là. Puis l'autre affaire que les gens ont sous-évaluée, c'est quand les banques étaient papier, là, te souviens-tu, on allait à la caisse, puis à la banque, on taponnait, là, on arrivait, on taponnait, tu sais, on faisait la ligne. Moi, j'étais assez vieux pour ça.
Ouais.
Quand les guichets sont arrivés pis la technologie, on se dit, hey, ça va coûter moins cher, il va y avoir plus de technologie, moins de monde. L'erreur qu'on a faite, c'est ça prend bien plus d'argent au niveau des systèmes, de la surveillance des systèmes, de la sécurité. Donc, on a facilité notre vie, mais on a compensé le désinvestissement en humain en investissement en machine, et l'humain a dû supporter la machine. Alors, on n'a pas atteint la société où il y a personne qui travaille, c'est des robots, là, tu sais. Alors, il y a ça, là.
Puis on a encore plus de frais.
Puis avec ce qui est arrivé chez Desjardins, les gens sont encore plus conscients que la sécurité, la protection de leurs actifs est quelque chose de vraiment important, puis qu'il faut mettre beaucoup d'argent dans ça.
Un auditeur en temps réel, pendant qu'on se parle, dit « Si je comprends bien, les gestionnaires de Bombardier auraient mérité 30 000 $ au lieu de 6 millions. »
Ouais, en fait... Justement, le Bombardier, le problème, c'est que là, t'as l'autre pan de la rémunération qui disent, ils vont dire, ben là, je gère une grosse compagnie en perte de vitesse, mais moi, je gère quand même la compagnie, peu importe le chiffre d'affaires, donc je mérite quand même d'être compensé pour être dans cette situation-là et redresser la situation, même si l'entreprise connaîtra une belle mort.
Exact. Ah! On finit ça avec un jeu de mots pour la thématique du jour.
Je vais les répéter.
Ben oui, avec M. Bellemare. Hey, merci, Biarritz.
Salut.
Bonne soirée.